RFI, grand reportage.
Nathalie Amar.
Et nous sommes aujourd'hui à Pittsburgh, alors que les chefs d'État du G20 s'apprêtent à discuter finances et relance. Notre correspondante aux États-Unis est allée promener son micro dans cette ville qui se trouve à mi-chemin entre New York et Chicago et qui a subi en son temps de plein fouet la crise de la métallurgie. Elle s'en est relevée en opérant une conversion aux hautes technologies à l'économie verte. Grand reportage de Naïg Ledu.
Ce que vous entendez là, ce sont les engins qui détruisent un autre immeuble. Ça arrive souvent ici. Ils sont laissés à l'abandon et puis, au bout d'un moment, ils commencent à s'écrouler. Ils deviennent dangereux, alors la municipalité les détruit.
Marshall ne leur jette plus qu'un regard distrait au bulldozer. Ce matin, il ramasse des haricots dans le potager, pendant qu'une jeune fille à côté arrose des plants de tomates. On pourrait presque se croire dans un décor de cinéma, un de ces films où des survivants tentent de reconstruire une vie après l'apocalypse. À droite, l'une des dernières aciéries encore en activité. À gauche, des bulldozers donc qui s'acharnent à aplatir des ruines. Entre les deux, le long d'une rue bordée de terrains vagues, le jardin communautaire de Braddock, l'un des faubourgs de Pittsburgh.
Yesterday, there was a building there.
Hier encore, il y avait un immeuble là, juste à côté, deux ou trois étages avec des fenêtres condamnées. Le toit avait commencé à s'écrouler. Maintenant, on a la vue, on a une nouvelle perspective sur la rue principale. De part et d'autre, il y en a encore beaucoup des immeubles comme ça. Là où on a installé le jardin, il paraît que c'était un hôtel en ruine il y a 4 ou 5 ans. Avant, Braddock, c'était un endroit où les gens venaient, il y avait plein d'hôtels.
L'histoire de Braddock, l'histoire de Pittsburgh, c'est celle d'une crise, celle qui a frappé la sidérurgie aux États-Unis à la fin des années 60. Barbara est née dans cette ville après la Seconde Guerre mondiale et elle l'a vue s'effondrer.
Braddock, c'était l'acier, il n'y avait que des aciéries. Quand j'étais petite, il y avait 13 000 personnes. Je suis partie en 68 et quand je suis revenue en 1980, tout était fermé. Ici, il n'y avait plus qu'une épicerie. Tous les jeunes étaient partis et tous les emplois avaient disparu. Quand j'ai eu mon bac, on était 10 seulement alliés à l'université. Tous les autres allaient directement travailler dans la sidérurgie parce que ça payait bien. Ils gagnaient 50, 60 000 dollars par an. Alors quand tout a fermé, beaucoup de gens ont souffert. J'en connais deux au moins. Deux jeunes gens qui se sont suicidés parce que leur monde s'écroulait. Les autres se sont reconvertis ou sont partis.
Pittsburgh, c'était le symbole d'une certaine Amérique ouvrière, l'enfer à ciel ouvert, disait-on. Une ville tellement polluée qu'on ne voyait jamais le soleil, une ville où personne n'aurait imaginé aller vivre pour le plaisir. John Tyler est arrivé à la fin des années 60 pour enseigner à l'université.
L'histoire qui m'a frappé le plus, c'était de ce qui se passait aux années 30. Les hommes d'affaires portaient des gens de col qu'ils pourraient changer. On les appelle Hoover Collar. Et dans leur valise, dans leur petit portable, ils portaient 3 ou 4 parce qu'à 10h30, déjà, ils avaient besoin d'un nouveau. À midi, à 3h, il y avait tellement... Il paraissait que ça ressemblait à Londres avec les lampadaires allumés toute la journée.
Et puis les aciéries ont fermé. En l'espace de quelques années, Pittsburgh a perdu la moitié de sa population. Personne ne pensait que la ville s'en remettrait un jour. Ed Rendell, gouverneur de Pennsylvanie.
Quand on débouchait des tunnels qui entourent la ville et qu'on regardait la vue, à vrai dire, on ne voyait rien tellement la fumée des aciéries était épaisse. D'ailleurs, le journal USA Today l'avait appelé la deuxième ligne d'horizon. Aujourd'hui, la plupart des grosses aciéries, celles qui s'étendaient à perte de vue, elles, ont disparu. Mais elles ont été remplacées par des emplois verts, des emplois dans la recherche, dans les arts, dans la culture. Pittsburgh s'est complètement transformé.
Pittsburgh has undergone a remarkable transformation.
Aujourd'hui, la ville de Pittsburgh est en pointe dans des domaines aussi variés que la recherche médicale, l'intelligence artificielle ou les énergies renouvelables. Ça a été rendu possible par la présence sur place d'universités avec des laboratoires de recherche, par une politique très volontariste pour attirer les investisseurs et par la mise en commun des efforts de nombreux industriels. Greg Babe est le patron de Bayer USA, la division américaine du groupe chimique et pharmaceutique Bayer.
Les entreprises de haute technologie de la région et les universités offrent un terrain propice pour bâtir des partenariats entre le secteur privé, le gouvernement et les instituts de recherche pour promouvoir l'innovation. Un des exemples, c'est la nanotechnologie, la science qui consiste à manipuler des atomes et des molécules 80 000 fois plus petits que la largeur d'un cheveu. Nanomaterials Commercialization Center. We use our funding to bridge the valley. Un groupe d'industriels de la région s'est constitué pour créer un centre d'innovation dans ce domaine. On finance le chaînon manquant qui existe souvent entre la recherche fondamentale et leurs applications pratiques. The current portfolio consists of 12 projects. On a une douzaine de projets en cours et par exemple, on a financé des projets dans l'énergie solaire ou la fabrication d'ampoules à basse consommation. Des projets qui répondent à la double ambition de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et de nous rendre plus indépendants dans le domaine de l'énergie.
Développer à la fois le high-tech et l'écologie, c'est aussi l'une des façons dont Pittsburgh se reconstruit. Nous sommes dans le quartier de Lawrenceville, un ancien quartier ouvrier. On y trouve à la fois des maisons délabrées habitées par les plus pauvres et de l'habitat réhabilité investi par les jeunes qui travaillent justement dans les entreprises modernes. C'est dans ce quartier en pleine mutation que Chris Koch plante des tournesols. Au sortir de l'université il y a 2 ans, elle a fondé sa petite entreprise, G-Tech, avec un camarade. Leur objectif, c'est de promouvoir une nouvelle géographie urbaine. Pour le moment, ça se traduit par un champ de fleurs, spectacle insolite, au détour d'une rue plutôt miteuse.
Ici, il y avait une maison et maintenant, il y a des maisons habitées de chaque côté. Quand celle-ci a été démolie, les riverains nous ont demandé si on pouvait lancer un projet ici parce qu'ils avaient peur de la dégradation, des problèmes de drogue comme il y en a dans le quartier. Nous, on plante des fleurs. C'est joli, mais c'est aussi un projet de développement. Les tournesols purifient les sols, ils captent les résidus de métal qui sont dans la terre et en plus on produit du biodiesel à partir des graines. On ramasse les fleurs, on apporte les graines dans un labo à l'université, ils en font de l'huile. Alors, pas de l'huile alimentaire à cause de la pollution du sol, mais on l'utilise comme carburant. Vous savez, autrefois à Pittsburgh, il y avait près de 800 000 habitants. Il y en a 350 000 aujourd'hui. Et même s'il y a des gens qui reviennent, il y a encore plein d'espaces vides. On pense qu'il y a 20 000 parcelles comme ça. Au total, ça fait 15% de la superficie de la ville.
Des espaces à reconstruire, une géographie à réinventer, c'est aussi ça qui rend la ville séduisante. La Française Christine Fréchard est arrivée ici il y a 9 ans. Elle a décidé d'y rester et d'y ouvrir une galerie d'art.
Pittsburgh, c'est une ville qui a souffert de son passé industriel et qui a vraiment envie de faire ses preuves, de montrer une autre image d'elle-même. Elle est en perpétuelle effervescence et c'est la ville top number one au niveau de la recherche médicale aux États-Unis, aussi informatique. Bon, Google s'est installé récemment. Et puis au niveau des arts aussi, c'est une ville qui a énormément à offrir. La communauté artistique est très solidaire et c'est une ville qui part un peu dans toutes les directions, qui a envie de changer et qui a énormément de choses à offrir. D'ailleurs, il y a un déplacement assez important des grandes métropoles à Pittsburgh. À cause de ça et aussi parce que le coût de la vie ici est vraiment très, très raisonnable. Et je trouve ça très bien parce que la ville a déployé énormément d'efforts pour garder ses habitants. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que des gens d'autres villes viennent à Pittsburgh aussi, donc c'est bien.
Les artistes, ce sont eux aussi qui font la renaissance de Pittsburgh. Le plus célèbre d'entre eux a longtemps été considéré presque comme un renégat. Andy Warhol, le pionnier du pop art, né dans une famille ouvrière de Pittsburgh à la fin des années 20, il a fui sa région natale pour aller vivre son art à New York. En 94, 7 ans après sa mort, la ville lui a consacré un musée que dirige désormais Tom Sokolowski.
Quand je suis arrivé à Pittsburgh il y a 13 ans, sur la rive nord, où il y a désormais tellement d'attractions touristiques, il n'y avait que des immeubles abandonnés et le musée Andy Warhol. Maintenant, il y a deux stades, un musée des arts, toute une effervescence d'ateliers d'artistes, des restaurants, des hôtels, et tout ça parce qu'on y a installé un musée consacré à ce type cinglé et bizarre, comme on l'appelle, ce type qui avait quitté Pittsburgh pour inventer une nouvelle expression artistique. Et Pittsburgh aujourd'hui, c'est un endroit où les jeunes artistes peuvent venir s'installer, travailler à temps partiel dans un restaurant et consacrer l'essentiel de leur temps à leur création. Ce n'est plus possible, ça, dans des capitales comme New York, Londres, Paris ou Tokyo. Pittsburgh, c'est aujourd'hui un endroit où on dit aux artistes qu'ils peuvent venir s'installer et montrer leur création, que ce soit dans le domaine de la musique, du théâtre ou des arts plastiques.
Des artistes, des écologistes, des emplois très qualifiés dans les industries de pointe et la recherche, un paysage urbain qui se réinvente, l'endroit a toutes les raisons désormais d'attirer une population nouvelle. Prenez Marshall, par exemple, le jeune jardinier qui ramassait les haricots tout à l'heure dans le jardin de Braddock. Lui, il n'est pas d'ici.
Un endroit comme ça, c'est très stimulant en fait. On voit ce qu'on peut en tirer. Et ce qui est intéressant, c'est cet environnement urbain où il y a tellement d'endroits inoccupés. Des espaces comme ça, ça n'existe plus à New York, à Philadelphie ou à Boston. Et comme ce n'est pas cher, c'est un endroit génial pour monter des projets. Moi, je venais de temps en temps voir des amis ici et j'ai trouvé cette ville intéressante. Je pensais que ça m'irait bien de vivre ici. Je ne suis pas venu parce que j'avais trouvé du travail ici, non. Je suis venu d'abord et ensuite j'ai trouvé du travail.
Quant à Barbara, qui dans sa jeunesse a quitté une ville en crise et polluée, elle y revient désormais avec plaisir.
Ce qui a été fait ici, c'est ce que les États-Unis vont devoir faire. Les usines, l'industrie lourde, tout ça, c'est en train de disparaître aux États-Unis. Ils déménagent ailleurs et je crois qu'ils ne reviendront pas. Si on réussit à se recentrer sur d'autres secteurs, les services par exemple, c'est peut-être ça notre avenir.
Une reconversion réussie, mais à quel prix? La population de Pittsburgh n'a plus grand-chose à voir aujourd'hui avec celle d'il y a 30 ans. Les emplois ouvriers d'hier ont laissé la place à des postes qui attirent des professionnels hautement qualifiés. Autant de mutations que l'on regarde attentivement dans des villes où la crise sévit aujourd'hui. Détroit, par exemple, où les constructeurs automobiles sont en déshérence. Pittsburgh, symbole d'une Amérique post-industrielle qui reste à inventer. John Tyler.
Oui, je crois. Et franchement, c'est clair que dans une certaine mesure, on y est déjà. Et une grande partie des problèmes, je crois, économiques, sont basés justement dans ce déséquilibre. On est en train on a les structures d'autrefois qui ne correspondent plus à cette réalité économique d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que les changements viennent beaucoup plus rapidement maintenant qu'il y a 50 ans. Et les réponses à ces besoins sont en train de se former et de prendre une forme qui est franchement, je crois, impossible à prévoir.
Pittsburgh où commence s'en remettre, un grand reportage de Donaïk Ledu à la réalisation Marc Minatel.
Et on retrouve Doneg en ligne de Washington. Bonjour.
Bonjour.
Alors que ce G20 se tienne à Pittsburgh, c'était une volonté clairement exprimée par Barack Obama. Pour lui, Pittsburgh, c'est l'exemple de ce que l'Amérique entière doit faire pour passer le cap de la crise ?
Oui, tout à fait. C'est ce qu'il a expliqué d'ailleurs lorsqu'il a justifié le choix de cette ville de Pittsburgh, qui était un choix complètement inattendu pour organiser ce G20. C'est une ville, dit-il, qui a su créer de nouveaux emplois, de nouvelles industries, tout en plongeant dans l'industrie du 21e siècle. Alors c'est donc un petit peu ça l'idée qu'il veut promouvoir, c'est qu'il faut passer à une industrie plus propre, à une économie innovante et performante. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard non plus si le centre de conférence dans lequel va se tenir ce G20 est ce qu'on appelle ici un bâtiment propre, un bâtiment vert, c'est-à-dire un bâtiment qui ne pollue pas, qui ne laisse pas d'empreintes d'émissions de gaz à effet de serre. Et c'est donc dans ce bâtiment très, très high-tech, tout neuf, très beau, que va se tenir cette conférence du G20.
Un an après le début de la crise, Doneg, on a vu hier que le Brésil s'en sortait quasiment sans une égratignure. Aux États-Unis, en revanche, on est encore en plein dans la crise. Et Barack Obama le paie d'ailleurs en termes de popularité.
Oui, évidemment. Ce qu'on dit ici, ce qu'on entend ici beaucoup et ce que dit très souvent l'administration Obama, c'est le pire a été évité. Sauf que le pire, on ne l'a pas vu, donc c'est difficile effectivement de savoir ce qui aurait pu se passer si effectivement il n'y avait pas eu toutes ces mesures prises pour sauver les banques et les institutions financières, par exemple. Aujourd'hui, un an plus tard, où est-ce qu'on en est ? On est quand même dans une population qui est encore très, très inquiète. On a un taux de chômage qui approche des 10% et vu la façon dont s'est comptabilisé le chômage ici, la réalité de la population sans emploi est bien plus importante. On a toujours des maisons qui sont saisies, des gens qui perdent leurs maisons et leurs économies. On a toujours évidemment ces déficits absolument énormes qui sont en train quand même de paralyser, de bloquer une bonne partie des réformes que Barack Obama aurait voulu lancer pendant cette première année de mandat. Une situation donc, on a l'impression d'être un petit peu englué dans cette crise économique et de ne pas bien voir comment les choses pourraient s'en sortir, même si on nous dit que le chômage monte moins vite, par exemple. Il monte moins vite, mais il ne descend pas.
Et cette inquiétude, d'après vous, va peser sur l'atmosphère du sommet ?
Alors ça, c'est difficile à dire. Les manifestants sont là, ils sont déjà arrivés à Pittsburgh, les anarchistes, les pacifistes, les chômeurs aussi. Ils sont là, mais on les a installés relativement loin de la ville. Donc les rumeurs, si vous voulez, des manifestations risquent fort de ne pas arriver jusqu'à ce magnifique centre de conférence du G20. Et ça, c'est un petit peu un regret qui est assez perceptible au sein de la population de Pittsburgh. On a vu dans le reportage, c'est de plus en plus une population éduquée qui a accès à des emplois très qualifiés et une population donc qui aimerait bien aussi avoir son mot à dire et avoir son avis à donner sur le modèle de développement, sur le modèle de transformation qu'on peut proposer à cette Amérique qui est aujourd'hui en pleine crise morale, j'allais dire, quant à son développement économique. La crise de la sidérurgie, c'était il y a une génération à Pittsburgh, mais aujourd'hui toute l'industrie américaine est en crise. Je pense par exemple à l'industrie automobile qui va très très mal. Et puis vous savez, ici, quand on va faire des courses, quand on va acheter des choses, la plupart des produits qu'on achète viennent de Chine ou d'Asie. Et donc l'avenir de l'ouvrier américain, si vous voulez, on a l'impression qu'il est très fortement compromis et peut-être beaucoup plus fortement compromis à la faveur de cette crise qui secoue le pays actuellement.
Merci beaucoup, Donneig Ledu. Votre grand reportage à Pittsburgh est à retrouver sur le site internet d'RFI, www.rfi.fr. On suivra bien sûr ce sommet avec nos deux envoyés, eux spéciales, Muriel Paradon et Véronique Rigolet. À la table du G20, on le sait, il y a aussi le président sud-africain, Jacob Zuma. L'Afrique du Sud, ce sera demain la destination de notre grand reportage avec Nicolas Champeau.